12h31, qu'est-ce qui se passe dans l'actualité, Pascal?
On y va avec ce qui occupe le plus l'actualité en ce moment. Devant la grogne, on dit Québec ajoute 540 millions de dollars au budget de l'éducation. C'est Bernard Drinville qui est sorti aujourd'hui. Vous savez, on avait d'énormes coupures dans le secteur de l'éducation. On a reviré de bord. Est-ce une histoire de les élections s'en viennent, la CAQ a beaucoup perdu, on décide de revenir? La question se pose. Par contre, ce qu'on comprend du discours de Bernard Drinville, ministre de l'Éducation, c'est qu'il est allé sur le terrain, il a jasé avec les enseignants et il s'est dit, moi, finalement, c'est pas une bonne idée suite à la pétition aussi de 150 000 personnes, enseignants ou encore personnels en éducation. On va injecter de l'argent financièement, ça va peut-être aider un petit peu le secteur de l'éducation. Par contre, on se demande et on espère que ce soit directement pour les enseignants, pour les élèves, le personnel et non nécessairement une question de salaire, là. Aller chercher plus de ressources, en avoir sur le terrain pour désengorger et aider l'élève en soi. Le gouvernement Legault fait aussi l'actualité parce qu'on a déposé un projet de règlement pour autoriser la colocation dans les HLM. C'est une pratique qui est présentement interdite, mais on veut revoir ça et c'est la ministre France-Hélène Duranceau qui a expliqué la chose comme ça. Elle dit « On souhaite que plus de personnes aient accès à des HLM tout en s'assurant qu'il y ait de moins en moins en fait de logements qui sont sous-occupés. » Alors, c'est comme ça qu'on rapporte la nouvelle aujourd'hui. On en reparlera un petit peu plus tard à l'émission, mais c'est quand même quelque chose d'important. Du côté de la Ville de Québec, on vient de sortir une nouvelle campagne. On vise les colons de la route.
Les premiers colons?
Les colons de la route. C'est un peu sur un ton humoristique qu'on le fait, mais on lance la nouvelle campagne de sécurité routière qui appelle à la bienveillance de tous les usagers. Tu comprendras qu'on ne vous traite pas de colons, mais on vous regarde pareil. C'est les automobilistes, les piétons, les cyclistes et les amateurs de véhicules de micro-mobilité. C'est la première fois que je lisais ça. Comme les trottinettes, les monocycles électriques qui devront se comporter comme il se doit et non avoir l'air d'un colon de la route. Mais effectivement, c'est un petit clin d'œil à nos anciens colons, ceux qui ont peuplé notre beau territoire.
Voilà, 12h33, on va jaser avec Victor Henriquez, notre analyste politique préféré. Salut Victor!
Salut Yannick, salut Pascal.
On avait Superman pendant les élections. On nous présentait Mark Carney avec son profil économique. Il allait être le seul. En fait, il est le seul à pouvoir faire face à Donald Trump. Il est assez fort pour faire face à Donald Trump. Puis finalement, bon, on se rend compte qu'on a pas mal plus perdu depuis les négociations avec le Grand Orange qu'on a gagné quelque chose. Mark Carney, qui hier a fait preuve de transparence, là, il a dit qu'il était peu probable qu'on en arrive à une entente avec Donald Trump sans tarifs. On dit que les conséquences de cette réalité-là, ça va compliquer un peu la tâche des individus parce que ça va nous coûter un peu plus cher. Déjà que l'économie du Canada va pas si bien que ça. Il y a un certain ralentissement qui a été constaté dans les dernières semaines. J'ai bien hâte de voir comment Mark Carney va se sortir de ça parce que lui a fait quelques concessions. Là, avant même de gagner quelque chose avec Donald Trump, il a fait des concessions, dont les tarifs pour ce qui est de Google, pour ce qui est de ces trucs-là, comme Google ou les grands joueurs. Là.
La taxe sur les services numériques. Hein,
taxe sur les services GAFAM, numériques, merci.
Les fameux GAFAM. Et oui, Yannick, t'as raison, mais si Superman, c'est Mark Carney, la kryptonite de Donald Trump, et la question qu'on peut se poser à ce moment-ci, c'est qu'est-ce que ça voulait dire gagner aussi dans ces négociations-là? Hein, parce que c'est un jeu d'échecs. La partie n'est pas finie, elle va se poursuivre. Elle va non seulement se poursuivre dans la négociation avec les États-Unis, mais tu l'as dit, hein, Mark Carney hier a dit d'abord une entente sans droits de douane, c'est quasiment impossible, parce que la réalité, elle a changé, et Donald Trump tripe sur les droits de douane. Donc tant qu'il va triper là-dessus, il va en voir partout, il va en vouloir partout. L'autre élément aujourd'hui qui est intéressant, c'est que Mark Carney était à Hamilton avec l'industrie de l'acier pour parler de ce qu'il allait faire au Canada. Et là, c'est intéressant parce qu'aujourd'hui, on revient sur l'économie canadienne. Et qu'est-ce qu'on fait au Canada? C'est qu'on va augmenter la protection autour de l'acier canadien. Donc, pour Mark Carney, la solution, elle est dans ce qu'il contrôle. Parce que Donald Trump, il ne contrôlera pas. La négociation, il ne la contrôle pas à 100%. Il met des tarifs aujourd'hui de 25% de plus sur les produits fabriqués avec de l'acier chinois. On veut favoriser l'utilisation d'acier canadien. Donc, on augmente notre niveau de protectionnisme au Canada. Et on n'attaque pas tout de suite les États-Unis. Donc, ce qu'il dit, c'est qu'au niveau des États-Unis, on poursuit les négociations jusqu'au 1er août prochain. Ce que je comprends, c'est qu'il y a encore espoir d'en venir à une entente quelconque. Et de toute façon, ça va en prendre une à un moment donné ou à un autre, Yannick Pascal, parce que la relation avec les États-Unis, elle peut pas continuer à être basée sur les sautes d'humeur du président ouais. de l'autre côté.
Mais Victor,
pourquoi
on le confronte pas sur ce qu'il avait mentionné au départ, c'est-à-dire l'immigration qui était illégale, puis le fentanyl? T'sais, je regarde les chiffres du fentanyl là, qui a été saisi à la frontière des États-Unis, que ce soit les chiffres du Canada ou encore du Mexique. Pour ce qui est des chiffres du Canada, on a saisi à la frontière 26 kilos de fentanyl depuis octobre dernier. Et pour ce qui est du Mexique, là, donc à la frontière Mexique-États-Unis, on est à 3700 kilos de fentanyl de saisie depuis le début de l'année. Victor, c'est ce qui nous a mentionné au départ, c'était vraiment de la merde. Pourquoi on ne le confronte pas là-dessus en disant vous voulez nous mettre des tarifs, mais les raisons pour lesquelles vous voulez nous mettre les tarifs, c'est pas de bonnes raisons. Vous mentez.
Parce que des fois, il faut choisir entre avoir raison ou gagner la bataille, hein, ou gagner le débat. Et à ce moment-ci, on sait tous que le fentanyl, c'est une excuse bidon. On en a parlé la dernière fois, là, tu parlais de 26 kilos. 0,07% des saisies. Sur l'immigration, en ce moment, disons-le, la vérité, c'est qu'il y a plus de demandeurs d'asile qui viennent des États-Unis vers le Canada que le contraire. Alors, sur ces éléments-là, en ce moment, c'est complètement faux ce qu'il dit. Sauf que, si on va le confronter dans l'espace public, on aura beau avoir raison, on gagnera absolument rien.
Et le débat va être détourné. Le débat va être détourné.
Le débat va être contourné. Et on parle d'un homme qui parle avec son ego plus qu'avec la vérité. C'est ça la plus grande difficulté, hein. Vous savez, c'est que, habituellement, on base des discussions internationales comme celle-là sur des faits. À ce moment-ci, c'est pas basé sur des faits, c'est basé sur la perception que le président Trump a d'une situation. Qu'elle soit vraie ou pas. Donc, c'est pour ça aussi qu'il faut jouer ça comme une game d'échecs. Et c'est pour ça aussi que c'est aussi incontrôlable pour Mark Carney. La réalité, c'est que quel que soit le premier ministre du Canada dans les prochaines années, tant que Donald Trump va être là, ça va être extrêmement compliqué. Même avec un nouvel accord, on rappelle que le dernier accord commercial de libre-échange entre le Canada et les États-Unis a été signé par un président américain appelé Donald Trump. Exactement le même qui est là aujourd'hui. Imaginez, il a signé un accord. Et il dit que c'est un mauvais accord aujourd'hui. Alors, à partir de là, vous savez que la donne a changé. Ça fait longtemps qu'on le dit. Mais il y a un élément qui est super important. Mark Carney, maintenant, doit se concentrer sur une chose seulement. C'est celle de l'économie canadienne. Il en a parlé aujourd'hui. C'est 13 économies, un peu séparées, où il y a beaucoup de réglementations entre l'une et l'autre, qu'on doit réunir pour faire une économie forte. Parce qu'on est un petit bassin de population, rappelons-le, hein, 40 millions d'habitants versus 350 quasiment de l'autre côté de la frontière. Parce qu'on doit se protéger entre nous aussi. On a une économie qui est très nord-sud. Elle n'est pas est-ouest. Donc, on doit changer un peu l'axe de notre économie. Et ça, on contrôle. Donc, ça, là-dessus, le gouvernement canadien, quel que soit le gouvernement qui est en place, a des actions qu'il peut se mettre en place, peut travailler avec ses provinces, peut travailler sur son terrain. C'est ça qu'il faut mettre en valeur. Mark Carney a commencé à le faire aujourd'hui. Moi, je commençais à trouver qu'il était tard un peu.
Ouais.
Alors, j'espère que ça va s'accélérer parce que ces fameux grands projets, rappelons-le, qui s'en viennent, il va falloir les faire.
Est-ce qu'on peut jouer avec le temps? Parce que de ce que je comprends, il y a certains États qui commencent à signaler le mécontentement au président Donald Trump, entre autres le Texas, où ils sont à 250 kilomètres du Mexique. Il y a énormément de Mexicains qui travaillent pour ce qui est des voitures et tout ça. Puis eux, ben, ça va être les premiers touchés. Est-ce qu'on peut laisser ce conflit-là perdurer en ayant peut-être des espoirs de nous faire rallonger les fameuses dates limites comme Donald Trump nous habitue, puis que ça soit de l'interne aux États-Unis, que le message soit envoyé au gros orange l'autre bord, puis que ça soit profitable pour nous, les Canadiens, à long terme?
Tu mets le doigt sur le secret de la caramique, Yannick. Ah. Le secret de la caramique aujourd'hui, c'est que ça se passe à l'intérieur des États-Unis. Le changement doit venir de l'intérieur. Donald Trump n'est pas, à ses yeux, élu pour faire plaisir à la planète. Il est élu pour plaire au peuple américain, plaire surtout aux économies, à l'économie américaine, puis faire du bien aux entreprises américaines. C'est ça la promesse qu'il a faite, c'est ces gens-là qui l'ont élu. Alors, à partir du moment où est-ce que l'information vient de l'extérieur, ça le touche plus ou moins. Quand ça vient de l'intérieur, ça commence à devenir intéressant. Oui, il faut jouer la montre, mais en même temps, il faut aussi garder des dates limites, parce que sinon, on peut se faire marcher dessus assez longtemps. Donc là, c'est tout ça l'équilibre difficile de la négociation. C'est une négociation qui doit aussi rester un peu dans le secret parce que, vous le savez, on négocie jamais sur la place publique, encore moins avec un homme qui a autant de facilité à communiquer d'une façon vulgarisée fausse, qui a autant de facilité aussi à avoir de la portée chez les gens parce qu'il a un très gros public, Donald Trump, à travers la planète. Alors, jouer une game de communication contre un homme comme ça, c'est extrêmement complexe, puis de toute façon, c'est très gagnant. On est dans une période instable, mais oui, ça va venir des États-Unis, ça va venir de l'intérieur, ça va venir de nos relations avec les gouverneurs des États. Ce travail-là, il doit se poursuivre. Un travail plus caché qu'on voit moins, mais qui est tellement important parce que il faudra influencer dans le Trump d'une façon ou d'une autre.
Bien, assurément. Victor, permets-moi une question qui a un peu d'opinion à l'intérieur, parce que Donald Trump, au départ, quand il s'est représenté comme candidat pour être président des États-Unis, on avait souvent des débats ici en ondes, puis moi, je parlais de son passé, de ses affaires, de sa façon de communiquer, de comment il était dépeint aussi en affaires quand il était plus à la tête de Trump, en général, là, avec un gros T majuscule. Puis c'était pas nécessairement la personne qu'on dépeignait au quotidien, comme le sauveur, le gars de l'économie, le gars qui est capable de faire des deals, qui nous ramenait aussi à l'émission de télévision.
C'est qu'on se fiait à son premier mandat aussi.
Les gens voyaient beaucoup plus Trump comme le sauveur des États-Unis. On voit maintenant qu'il y a des grandes lacunes, puis ça, c'est pas une opinion, c'est clair, au niveau communicationnel, dans le monde entier aussi, par rapport à être capable de créer des alliances avec une diplomatie, assurément, avec une politique derrière ça. C'est un gars qui l'échappe beaucoup plus, et là, mon opinion, que tout le monde croyait, même ceux qui étaient fervents de l'homme, qui y croyaient puis qui avaient, c'est correct, envie de lui laisser sa chance. Par contre, on est en train de perdre devant un homme comme ça, avec un Carney qui n'est pas capable de se tenir, qui donne à Trump ce qu'il veut. Lui, il continue, il voit que ça fonctionne. Fait que Donald Trump, il se dit « je continue d'imposer tes tarifs », puis c'est un peu flou. À quel moment on arrête de crier au loup, puis à quel moment on est capable de se tenir devant cet homme-là, parce qu'on lui donne du gaz?
Ben d'abord, la game d'échecs, on va la voir à la fin, qui l'a gagné, parce que pour ceux qui jouent aux échecs, ils le savent, hein, tu peux avoir l'air en arrière pendant toute la game, puis l'a gagné à la fin. Comme le contraire, d'ailleurs. C'est important ce que tu dis, Pascal, parce que Donald Trump a une vision très isolationniste des États-Unis. C'est pour Donald Trump, là, l'important, c'est nous, les Américains, c'est à l'intérieur, c'est l'économie, on va protéger, on va mettre des barrières, on va mettre tout ça en place. Moi, l'élément qui me surprend, c'est que j'ai l'impression que Donald Trump oublie un peu que dans toute la grandeur de l'Amérique qu'il veut retrouver, il y avait une espèce d'admiration internationale pour les États-Unis. C'est ça qu'il n'a pas entre les mains en ce moment. Et pourtant, ça fait partie du rêve américain. Quand on parlait du rêve américain dans les années 60, 70, 80 et même plus récemment, il y avait cette envie de dire hey, « je veux être comme les États-Unis, je veux vivre comme aux États-Unis ». À partir du moment où tu es isolationniste et que tu fermes les portes à tout le monde, ça disparaît. Et donc, cette espèce d'admiration qui a un pouvoir d'influence n'est plus là. Moi, je pense que là-dessus, c'est peut-être là où Donald Trump se trompe le plus à ce moment-ci. C'est peut-être là où est-ce qu'en termes de communication, il l'échappe le plus. C'est qu'il ne prend aucunement en considération ce facteur-là, qui est important. Parce que l'influence américaine est culturelle, elle est sociale, elle est dans tout ça, et ça, il ne le prend pas en considération en fermant les portes des États-Unis. Maintenant, pour ce qui est de quand est-ce qu'on va arrêter de jouer un peu au yo-yo avec lui, c'est vrai que la question de la taxe sur les services numériques, le premier ministre va devoir l'expliquer à la fin de cette négo. Qu'est-ce que ça avait comme valeur sur la table? Là, le président a amené la question de la gestion de l'offre. Moi, je pense que Donald Trump pitche sur la table des éléments qui le dérangent au fur et à mesure de la négociation. La taxe sur les services numériques, c'était une, puis on pouvait probablement s'en débarrasser plus facilement. La gestion de l'offre, c'est non négociable. Et il y en a d'autres, hein. Il a parlé notamment des politiques linguistiques. Donald Trump, dans ses dernières sorties, des choses qui peuvent le déranger. Donc, il y a du négociable et du non négociable. C'est tout ça qui se joue. Mais ce qui est compliqué, c'est que est-ce qu'on a vraiment le choix de négocier, Pascal? Parce qu'on est un petit marché. À côté de nous, il y a 350 millions de personnes et notre économie était basée sur ce marché-là. C'est comme si on disait hey, notre marché, c'est pas juste les 40 millions, on l'étend jusqu'à la frontière du Sud et même celle du Mexique, ce qui nous fait un marché plus intéressant.
Mais Victor, c'est là où on a une difficulté. Carney qui a laissé tomber la taxe sur les GAFAM, est-ce qu'il l'a laissé tomber trop vite? Parce que ça aurait pu être un élément dans la discussion qu'on a là actuellement avec Donald Trump. Là, aujourd'hui, Mark Carney annonce des mesures pour restreindre les importations d'acier étranger au pays. De ce que je comprends, c'est la Chine qui serait le plus touchée. Ce qu'on veut, c'est essayer de conserver les emplois chez nous. On a aussi parlé ce matin de mesures pour aider les travailleurs. Mais est-ce que ça va convaincre le grand orange de l'autre bord ou on va juste essayer de garder ce qu'on peut garder au Canada?
Ben, la Chine, je pense que c'est une façon de se protéger pour vrai, parce qu'on veut éviter le dumping, hein, justement, que les prix soient mis à baisse. Je pense que c'est pas nécessairement des choses, celles-là, pour convaincre le grand bonhomme orange au sud. C'est plus pour s'assurer qu'on garde une certaine stabilité, qu'on s'assure au moins que si un marché canadien, quelle que soit sa grandeur, ben, il appartient à l'acier canadien. Ça, je pense que c'est un élément super important. Puis on oublie à quel point c'était pas une évidence avant. Parce que Canada n'a jamais été très protectionniste là-dessus. Oui, il y avait des mesures, mais c'était pas des mesures qui étaient aussi poussées que celles qu'on voit aujourd'hui. Alors là, on doit augmenter le niveau de protection pour l'acier canadien et poursuivre la négo. Donc, le fait de pas toucher les États-Unis puis de toucher la Chine, c'est peut-être une façon de dire à Donald Trump, hey, on est encore tes meilleurs alliés, mais on n'est pas loin d'arrêter de négocier. Puis l'autre chose, c'est ça, c'est Ce qu'on ne sait pas, c'est à quel point la négociation, par exemple, dépendait d'arrêter la taxe sur les services numériques. C'est, est-ce que le président, est-ce qu'on on est arrivé à un point où est-ce que si on n'enlevait pas la taxe, il n'y avait plus de négo? À ce moment-là, on n'avait pas nécessairement grand-chose à gagner sur une taxe qui ne représentait pas des montants énormes pour le gouvernement canadien. C'est peut-être là qu'on a décidé d'aller aussi. Puis il n'y a rien qui nous empêcherait de la remettre à la fin d'une négociation si on se rend compte que ce n'est pas satisfaisant. Donc tout ça, c'est très mobile, c'est très instable. C'est très dur d'en parler de façon définitive parce qu'on pourrait dire quelque chose aujourd'hui puis ça change complètement demain. C'est ça qui est le plus difficile aussi.
L'affaire Epstein et le président américain Donald Trump qui est accusé par ses propres partisans de manquer de transparence dans le dossier de Jeffrey Epstein, la fameuse liste. Le FBI était sorti en disant il n'y en a pas de liste. Du côté du président américain, il avait dit il y avait une liste, quand elle sera disponible, on va vous la diffuser. Elon Musk a dit Donald Trump fait partie de la liste dans les dossiers de Jeffrey Epstein. Qu'est-ce qui se passe actuellement là, dans cette affaire-là? Est-ce qu'on va, oui, ou non libérer cette liste de clients qui allaient chez Jeffrey Epstein pour coucher avec des petites filles ou on va tenter le plus possible de retarder la diffusion de cette liste-là si cette liste existe bel et bien?
Ben, c'est ça, la première question, c'est est-ce que cette liste existe? D'ailleurs, Donald Trump ce matin est sorti en disant qu'il comprenait mal la fascination de ses partisans pour la fameuse liste.
Ben voyons, c'est bon. ma gueule est basée sur ça, là.
C'est tellement important.
Regardez, on n'est pas ça, une contradiction près. On commence à comprendre le personnage. Mais je vous dirais que, moi, à partir du moment où on ne sait pas s'il y a une liste, parler de la sortie d'une liste potentielle, c'est déjà risqué. Alors, je pense que je m'attends pas à voir cette liste-là sortir d'aucune façon prochainement. Je pense pas nécessairement non plus que Donald Trump ou les gens autour de Donald Trump ont nécessairement le goût de parler de ce sujet-là très, très longtemps. Mais à ce moment-ci, j'ai pas vu dans les interventions du président une volonté claire de dire « OK, on le sort ». Parce que s'il avait vraiment voulu le faire, on s'entend entre nous qu'il a sorti de l'information beaucoup plus facilement que celle-ci à ce moment-ci. Ouais. S'il voulait vraiment que ça se sache, ce serait le cas.
Mais Victor Henriquez, je me lance en disant si Donald Trump ne faisait pas partie de cette liste-là et si ça avait été profitable pour lui, tu peux être sûr qu'il l'aurait mis de l'avant, cette liste-là, puis ça aurait été sur Truth Social assez rapidement.
Ou est-ce que c'était... Oui, puis la question qui se pose, c'est est-ce que la liste existe? Parce que, comme vous le disiez, les MAGA ont beaucoup poussé sur cette fameuse liste-là, sur les noms qui étaient si scandaleux dans cette liste-là. On va s'entendre sur une chose. Il y a certainement des gens très connus dans la société new-yorkaise qui ont participé à des soirées avec Jeffrey Epstein et qui doivent se demander si la liste existe et qui doivent mal dormir le soir, là. Autre ceux dont on connaît déjà l'existence. Alors, si la liste existe, est-ce qu'elle permet aussi à Donald Trump d'avoir une mainmise sur certaines personnes? C'est très possible aussi. Je vous avoue que ça ressemble plus à un film de science-fiction qu'à la réalité. Puis j'ai toujours de la difficulté à commenter les rumeurs parce que dans notre domaine, les rumeurs, c'est notre pire ennemi. Hein? Tu sais, les faits, c'est ce qu'il y a de plus important. C'est là-dessus qu'on essaie de se baser justement pour commenter l'actualité. Et ce qui est difficile avec cette question de Jeffrey Epstein, c'est qu'on connaît les faits, à quel point ça a été horrible ce que Jeffrey Epstein a fait subir à des jeunes filles. Mais à part de ça, sur cette liste-là et tout le reste, on en connaît très peu encore aujourd'hui. Puis j'ai pas l'impression qu'on va en savoir beaucoup plus dans les prochaines années.
C'est surtout qu'on avait libéré 11 heures de diffusion où on voyait Jeffrey Epstein dans sa cellule, puis il manque une minute et c'est cette fameuse minute-là où le gars se serait pendu. Je veux dire, ça alimente les théories du complot là, d'une façon hallucinante, là.
Des fois, quand la réalité dépasse la fiction, c'est exactement ça. Mais tu sais, j'essaie de faire attention, moi aussi, à pas tomber là-dedans, parce que c'est un peu ça, là. C'est que c'est quand il n'y a pas d'informations factuelles, c'est là où tu peux communiquer à peu près n'importe quoi. Et ça, aux États-Unis, c'est devenu une vraie spécialité. Hein. Il y a beaucoup de gens qui disent beaucoup de choses. Les réseaux sociaux ont amplifié ça. On a de la misère à faire la différence entre le vrai et le faux. Il faut faire attention aussi à des fois, par rapport à nos opinions, on dit « OK, ben ça doit être vrai, mais ça peut changer aussi. » Donc, c'est un peu la difficulté de notre époque aussi. Les réseaux sociaux amènent ça. Beaucoup, beaucoup, beaucoup d'informations. Et qu'est-ce qui est vrai là-dedans? Et c'est compliqué.
Victor Henriquez, what a time to be alive!
What a time to be alive. Quel été extraordinaire, disons-le, parce que habituellement, vous vous souvenez de l'époque où l'été, on parlait pas d'actualité, on parlait du soleil, de la température, on profitait de la piscine.
Il n'y en avait pas d'actualité. Toi, tu es analyste politique à l'année maintenant, c'est comme le hockey du Canadien.
Exactement. Une fin de vacances par année, c'est en masse.
Merci, Victor. On ne sait pas coltoyer aujourd'hui. On trouvera une raison de se coltoyer la semaine prochaine.
Mais, J'attends d'avoir un sujet pour aller à Québec me coltailler en personne.
Ah,
je
ne sais
pas si ça va arriver.
Mais là, on m'a dit que tu étais une bonne pièce d'homme, fait que je vais commencer à faire mes push-ups tout de suite. Salut, Victor!
Non, ne vous en pas. Bye, à bientôt.
Merci. Bye. Victor Henriquez, analyste politique. On parlait du dossier Mark Carney qui commence à perdre du lustre. Là. On nous l'avait présenté comme étant le gars avec le profil économique qui était le parfait candidat pour faire face à Donald Trump. Et finalement, ben, c'est juste le Canada qui a concédé depuis le début. Et Donald Trump continue à faire son bully comme il fait d'habitude et semble gagner encore du terrain. Ce que Mark Carney a annoncé ce matin, c'est pour ce qui est de l'exportation ou l'importation, devrais-je dire, d'acier de la Chine, il va y avoir des tarifs.
Mm-hmm.
Donc, voilà. Hey, on va faire une courte pause. Pascal, mon chat, il vient d'aller aux toilettes.
Oh non, non, pas ton application, c'est la litière de ton chat.
Oui, ben oui.
Tu vas tellement mal. Je savais que, tu sais, il y avait des affaires qui clochaient. Là. Des fois, tu te promènes, ça faisait ding, 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 puis c'est ta tête. Mais ça, c'est quand même fascinant de voir que tu l'assumes au point où tu as une application pour la litière qui s'auto-nettoie
exact.
De tes deux chats.
Pas cher. J'ai acheté ça sur Costco en spécial. Ça m'a coûté 286 $.
Pas cher.
Puis là, ça me dit, là, il y a une erreur parce que j'ai.
Je veux pas le savoir, là, combien de tonnes de fiente ton chat a fait.
Oui, mais non, mais c'est ça, j'en ai deux. Mais là, le problème, c'est que la machine détecte que des fois, mon chat pèse plus, des fois, mon chat pèse moins.
Mais c'est pas le même
fait
chat.
Exact, parce que j'en ai deux, j'ai un mâle et une femelle. Puis là, il me dit, vérifiez l'état de santé de votre chat.
Parce qu'il pense qu'il n'a pas d'équilibre sur son poids.
Oui, puis il va trop de fois aux toilettes pour juste un chat. C'est
bien
fait,
pareil.
Tu peux
sûrement rentrer dans l'application qu'il y en a deux, là, puis que tel poids est associé à un. Puis, Crème, il est en train de te dire combien de fois il est allé dans la journée.
C'est
clairement,
ça.
Tu peux rentrer deux chats là-dedans.
C'est comme un nid de loup qui tourne sur elle-même pour s'auto-nettoyer, là. Puis quand le chat est dedans, je peux le voir. Puis si je veux y faire un tour de roue, je pèse sur ce piton-là.
C'est-tu quoi, Yannick? Il y a... Puis en plus, c'est pas conseillé de faire un tour de roue à ton chat, là, mais il y a un trend en ce moment sur TikTok et sur Instagram.
Oui.
La personne va devant la caméra et dit, « Là, mon chum va te parler de sa passion. » Ou « Là, mon chum va te parler de quelque chose dont on se fout. » Mais faites semblant de triper. Puis faites semblant que c'est vraiment, vraiment intéressant. On va faire ça avec toi.
Comment ça?
La litière auto-nettoyante.
Écoute, c'est la première fois de ma vie que j'ai ça.
Au 88-971-101, écrivez à Yann. « Wow, Yann! » Impressionnant.
Non, mais c'était supposé de changer ma vie.
Signaler à Yann à quel point on est content qu'il nous en parle.
C'était supposé de remplacer les promesses de mes enfants
de
pour avoir leur chat.
La litière, oui.
C'est-à-dire de faire la litière.
Mais je pensais pas que tu étais aussi crédule que ça. Quand un enfant te dit « je vais faire la litière », tu l'as cru.
Avec mes enfants, je peux croire à peu près n'importe quoi. Je suis vraiment un épais. Mais c'est ça, 286 $ sur Costco.
Ouais.
Ça marche super bien. Il me reste juste quelques petites choses là, à ajuster là, pour être sûr certain que... le chat soit pas dedans pendant que ça tourne.
Wow! Hey Yann, t'as-tu le lien? J'ai pas de chat, mais tu m'as convaincu.
L'application, Pascal,
oui?
C'est Smart Life.
Mm.
Et là, regarde.
Ben oui, montre-moi ça. Regardez.
Là, je m'en vais parce que là, dans ma maison, je peux contrôler tout à distance.
Okay.
Fait que là, je m'en vais dans la chambre des gars parce que leur litière est dans leur chambre. Pas question que ce soit dans la maison.
Ça, pour vrai, DPJ.
Fait que là, j'ai le nombre de fois que mon chat va aux toilettes, la durée d'utilisation,
okay.
600 secondes. Fait que si je revends ça sur Marketplace, je peux écrire la durée
d'utilisation totale.
Comme le kilométrage d'une voiture.
OK. Changement d'huile, ça, c'est-tu? Changement de grain de litière, mettons?
Il n'y a pas ça.
Ah.
On me demande, tu l'as acheté à quel endroit? Je l'ai dit, c'est au Costco.
Oh oui, non, mais tout le monde s'intéresse à ton sujet.
Puis là,
88-971-102, continue, gang.
Mise à jour du poids du chat. Donc, ce que je comprends, c'est que le dernier qui est rentré dans litière, je pense que c'est mon petit mâle, 3 830 grammes.
OK.
Voilà. Puis, c'est ça. Fait qu'il m'envoie des trucs super importants.
Super, ça. Combien de temps mon chat est allé à la toilette aujourd'hui?
Si, oui.
Hein?
Ben là,
sais-tu à quoi ça me fait penser, mais en pire?
Mettons, 5 fois...
Les courriels de la garderie qui dit « Il a joué mon enfant avec un triangle. » Votre enfant a joué avec un triangle aujourd'hui.
C'est 5 fois par 600 secondes.
Hey, sacrement.
Qu'est-ce qu'il y a?
Rien. J'ai-tu dit quelque chose? Qui a parlé?
Fait qu'ils ont été... ouais, OK. C'est à peu près... ouais, okay. OK.
Notre invité nous attend.
Qu'est-ce qu'il y a?
Notre invité nous attend. Notre prochain invité nous attend.
Wow, Yann! On l'a dressé pour aller sur la toilette.
Tiens, 0 $.
Il y en a qui font ça!
Ah oui?
Il y en a qui font ça. Le problème, c'est qu'il faut que tu mettes de la litière dans le fond pour habituer ton chat à le faire au début.
Dans ta toilette?
Oui. Puis après ça, le chat, il comprend que c'est là qu'il faut qu'il fasse ses besoins. Tu peux mettre de l'eau après, puis c'est correct, il est capable de faire sa job.
Ouais, je suis pas sûr que c'est tant une bonne idée. Là.
Qu'est-ce qu'a dit Lisette? Yann, j'aime pas les chats, fait que les besoins de tes minous, je m'en contrefous.
C'est rare qu'elle est passive-agressive, ça c'est bon.
Salut Marceau, j'ai exactement le même âge que toi. J'aimerais beaucoup m'installer avec toi, prendre une bière et jaser de chat et de litière. Ben. Je pourrais te parler de ma mangeoire automatique que j'ai achetée pour mon petit homme.
Let's go! Pourquoi ça se fait pas ça?
Yann,
quelqu'un d'autre a quelque chose pour se joindre? Mettons un lanceur de croquettes à votre chien, là. Peut-être qu'on pourrait mettre ça aussi sur la table.
Yann, c'est dégueulasse, la litière dans leur chambre, pour vrai. Tu sais quoi? Au début, je me suis dit, ça n'a pas de bon sens, mais là, j'ai plus de place. Je suis rendu dans un condo.
T'as pas de corridor?
J'en ai un, mais il n'est pas assez large. Okay. Tu sais, puis moi, l'odeur. Les gars sont là juste la fin de semaine. Fait que là, ils ont une litière automatique. Ils ont pas à la changer. C'est le père qui se ramasse avec le trouble. Fait que c'est bien correct. Mon chat, lui-même, flèche la toilette. Non, c'est n'importe quoi, ça. Marceau, c'est Arlène. Salut, Arlène. Quel sujet de merde.
Snom.
Jas, un mois, c'est pas dans la toilette litière dégèle. Je comprends pas.
Hey.
C'est plus réseau de lumière et autres. Un mois, c'est... Je comprends pas. Ah, mais Smart Life, ça peut servir aux lumières aussi. Ouais.
Ouais, pas juste à ta litière. Mais mettons, quand tes gars sont là, la litière, au pire, dans la salle de bain.
Ça reste là. Ah, okay. Non. Okay. Bon. Ça reste là. Je veux juste pas que ça sente dans la maison. C'est parce que je pars à 6h le matin, 6h30, puis j'arrive chez nous, il est 19h, 19h30 le soir. Fait que quand j'arrive chez nous, je veux que ça sente bon. Puis la litière, jusqu'à maintenant, la litière automatique, fait la job. C'est juste que ce matin, j'ai eu quelques problèmes. Mais ça, c'est une autre histoire. La suite, je vous le promets, ce sera la semaine prochaine. Midi 56. on fait midi 57, on fait une courte pause.